RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Bonsoir à tous. Voilà, ce soir, on va commencer ce mois de juillet. Et pour cela, j'ai choisi un sujet de choix. Comment relancer le désir ou le maintenir, pour tous ceux qui, pour l'instant, n'ont pas de panne d'amour dans leur couple. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que je crois que l'été est plus propice à cela, non seulement parce qu'il fait meilleur, il fait plus chaud, mais surtout parce que nous sommes souvent un peu plus disponibles, plus en relation avec notre corps. Mais qu'en pensent mes acolytes? La première œuvre pour maintenir une bonne harmonie sexuelle dans les couples, c'est Florence Escarévège. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore là, mais je pense qu'elle ne va pas tarder. Il y a généralement pas trop d'embouteillages à minuit. La seconde femme, c'est une femme de désir et une femme qui, en tout cas, suscite beaucoup le désir. C'est Julia Palombe qui est avec nous. Et notre homme, ce soir, lui aussi, il a toujours de très bons conseils à donner aux femmes et aux hommes. C'est Bruno Martin, notre homme de ce soir. Mais avant de présenter nos invités, je vous propose déjà les sujets de ce soir. Alors, on l'a dit, le grand sujet, ce sera comment relancer le désir. En love coaching, j'ai choisi tout à fait autre chose, mais ça peut être à voir avec le désir. On va essayer de voir comment on répartit bien les tâches ménagères. En J'ai testé pour vous, on va tester le club libertin. Et la lecture érotique, c'est Julia Palombe qui nous fera le plaisir de lire un poème de Boris Vian. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà. Alors donc, on va présenter nos invités. Ça y est, Florence Escarévège est arrivée. Bonsoir.
Bonsoir Brigitte.
Merci d'être avec nous. Julia Palombe, bonsoir.
Bonsoir.
Je disais, femme de désir, ça, on peut le dire en ce qui vous concerne.
Ah, on peut le dire.
Alors, je précise tout de suite, samedi, vous êtes en concert au Tigre Club Paris pour un show érotique Cosimo. Les portes sont ouvertes à partir de 22h30 et c'est 5 rue Molière à Paris dans le premier. Vous retrouverez ça, évidemment, sur mon compte Twitter, sur le Facebook.
Oui, c'est la rencontre du rock et de l'érotisme.
Voilà, et ça sera donc une bonne manière de relancer le désir également.
Tout à fait.
Bruno Martin, si avec tout ça, vous n'avez pas de désir, moi, je ne peux plus rien faire pour vous.
Moi, j'en ai tout le temps, alors, donc j'ai pas de problème là-dessus, L'homme, vous savez, on est une bonne réserve.
Certes,
fabriqué
certes
pour.
Mais quand même, on constate aujourd'hui qu'il y a plus d'hommes qu'avant qui ont des pannes de désir.
C'est vrai. J'en rencontre pas mal.
C'est vrai. Alors Bruno Martin, je rappelle évidemment que nous avions écrit ensemble ce livre, L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, aux éditions Albin Michel. Et comme vous venez de le dire, en général, les pannes, c'est plutôt chez les femmes. Vous le constatez aussi, Florence Escarévège?
Chez les hommes, non?
Chez les hommes, pardon. Okay. Oui, lapsus révélateur. je ne t'en dirai pas plus, je n'interpréterai pas mon propre lapsus.
Oui, c'est en effet un problème, mais il y a quand même une question d'âge. À partir d'un certain âge, on sent que... je vais pas rentrer dans...
Non, mais c'est vrai pour les femmes aussi. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, vous imaginez, dans les maisons de retraite, si on était encore débordant de désir comme à 20 ans, ça serait compliqué à gérer.
Il faut se méfier, Brigitte. Il y a beaucoup de
désirs.
Absolument, des papis et des mamies.
Non, c'est vrai, ma grand-mère, elle était dans une maison de retraite. Elle est partie l'année dernière, mais elle me disait que dans l'ascenseur, il y avait toujours un...
Ils osent toucher, mais de là à penser qu'ils vont aller beaucoup plus loin.
C'est dans la tête, quoi.
Alors, donc, la question, comment relancer le désir dans le couple? Moi, j'ai tendance déjà à dire que l'idéal, c'est de ne jamais le laisser s'éteindre.
C'est ce que j'aurais dit. Le mieux, c'est de pas laisser, effectivement, le feu s'éteindre. Et peut-être d'être dans un érotisme journalier, décomplexé, léger. C'est un peu comme la santé en fait. Il faut pas attendre de tomber malade pour soigner. Il faut pas attendre que le désir soit mort pour commencer à y penser. J'aurais tendance à le voir comme ça.
Alors oui, mais comment on fait? On fait l'amour suffisamment régulièrement? On laisse pas un laps de temps?
Il y a aussi la tendresse. Il y a pas que le sexe vraiment. Il y a aussi toutes les petites attentions.
Et maintenir absolument l'intimité. Ça,
oui,
c'est sûr.
L'intimité, le regard, la parole, le geste tendre.
C'est un point clé parce que l'inhibition du désir sexuel, c'est ce qu'on voit le plus dans les consultations pour ce qui concerne les femmes. Et c'est vrai que le premier plan qui flingue l'homme, c'est l'abandon de la l'attention, de la compréhension, de l'amour, du sentiment, de la surprise positive, qui fait que ben vous, les femmes, après, vous montez beaucoup moins du côté de l'érotisme, hein, enfin en général. Et c'est très bizarre parce que les hommes pensent bon, désir, c'est sexe, absolument. Mais le désir chez vous, il monte quand les premières colonnes.
C'est la chanson de Françoise Hardy. Étonnez-moi, Benoît.
Absolument. Mais vous savez que la surprise, pour moi, je pense que c'est un des phénomènes les plus qui nous rend les plus désirables. Hein,
oui,
en
mais
tant qu'homme,
moi, je crois que les hommes aussi, ils sont vexés si la femme dit non une fois, deux fois, trois fois pour des raisons x ou y, mal de tête, etc. Et après, l'homme aussi, il va rester dans son, il va se refermer sur lui-même et du coup, il coupe la communication. Mais dans une de mes chansons, justement, dans l'album Dr Love, qui s'appelle Monique et Robert, et c'est très drôle. Parce que c'est un couple où la femme est ménopausée, l'homme a la cinquantaine, et il sait pas comment raviver le désir, alors il décide d'aller au Cap. Et il l'emmène au Cap, et il la traîne un peu, Monique, elle a peur, quoi.
Mais pourtant, bon, avec un nom comme ça, hein.
Et ils y vont quand même. Et dans la chanson, je dis, mais un peu en rigolant, qu'il la pousse dans la mousse, et en fait, Monique se révèle dans la mousse. Et là, c'est tout aussi, parfois, on croit que la femme, elle est endormie, mais il faut faire attention, parce que si on la réveille, elle se réveille, et ça se décuple.
Oui, là. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que si l'homme réinitie un minimum de tendresse, d'attention, eh bien la femme, elle est beaucoup plus encline ensuite à recréer la tension érotique nécessaire pour que ça reparte. Moi, ce que je vois vraiment dans les couples que l'on accompagne, c'est qu'en effet, dès que ça se déconnecte, dès qu'un couple déconnecte d'un point de vue de la tout simplement de la communication, eh bien chacun est dans le repli de soi et la sexualité marche plus parce que il y a plus de
il y a des rancœurs quoi en fait aussi qui se sont installées entre eux et voilà. Il faut d'abord nettoyer si je puis dire enlever les mauvaises herbes quoi.
Oui, voilà, mais je pense que le plus grand tort finalement de la sexualité c'est la magie, c'est-à-dire que il faut aussi les femmes ont tendance à penser que il doit y avoir encore beaucoup de magie, beaucoup de alors qu'en fait la sexualité c'est quelque chose quand même d'assez pensé et quand j'accompagne les femmes je leur dis toujours, mais comprenez que le désir masculin, on peut pas passer outre le désir masculin. Donc s'il y a une demande en face de vous qui est d'une certaine tenue, d'une certaine attitude pour tout simplement relancer le désir, vous pouvez pas continuer à penser non, mais il faut qu'il m'aime au naturel parce que moi j'ai envie d'être aimée pour ce que je suis. Il y a des petites choses à faire.
Moi, je ne pense pas du tout que le sexe souvent... soit pensé, mais alors pas du tout. Je pense que le sexe est intelligent.
Mais parce
mais je
que
pense
vous avez
pas
20 ans de couple.
Ben qu'est-ce que vous en savez, madame?
Non, mais j'en sais rien du
ben
tout.
Voilà, j'en ai 15, donc
ah,
comme
voilà,
quoi.
Bravo.
Non, je ne crois pas du tout que ce soit pensé. Je pense au contraire que c'est en redonnant ces lettres de noblesse à notre animalité, à notre part animale, c'est-à-dire, j'entends par là, l'éveil de la sensualité, être
attentif.
Il
faut oser, en fait, se jeter l'un sur l'autre.
Oui, oser
quoi.
Aussi se respirer. C'est pas forcément à chaque fois. Effectivement, moi, je suis à fond pour se jeter l'un sur l'autre, mais parfois, c'est vrai, on n'en a pas l'énergie ou quoi, mais au moins se respirer, se sentir. On peut
mais
très
ça,
bien.
C'est quand tout va bien par ailleurs. Je veux dire, ça, le désir arrive quand il y a un nid, un contexte de fabriquer, souvent chez les femmes, sauf celles qui ont réussi à s'émanciper.
Mais le contexte, c'est vous qui le donnez.
Absolument.
La mise en scène du désir, c'est le couple qui le crée.
Et le couple,
donc,
c'est surtout...
Travailler
à ça. Franchement, les hommes,
mes
ils doivent travailler.
Chéris.
Mais on a plus de boulot que vous, hein, franchement. Hein, pour créer du désir, on a plus de travail que vous. Parce que nous, vous
mais
nous présentez
moi, je pense que c'est un travail pour les deux. Moi, je suis sûre même que la femme est plus apte à créer des surprises dans la sexualité. Hein. Je dis bien, une fois que la sexualité, parce qu'elle a plus d'imaginaire, elle est plus capable de trouver des surprises. Mais pour qu'elle ait envie de trouver des surprises, de surprendre son homme, il faut qu'elle sente qu'elle reste une princesse pour lui.
Ah oui. Il faut créer du chevaleresque, du surprenant, du divers.
C'est vrai que le mari qui met ses pantoufles, franchement, on n'a plus l'impression d'être une princesse.
Mais non, parce qu'on a l'impression au bout d'un moment qu'on est installé dans une propriété privée, qu'on a droit directement, aller directement au sexe, alors que il faut toujours créer du contexte.
De la vaisselle.
Voilà, de la vaisselle ou
mais vous voyez, quand vous parlez d'animalité, c'est très juste, mais comme il y a beaucoup de personnes qui se disent, oh ben non, en fait, le sexe est mort entre nous, ou c'est juste une fois par mois, simplement le fait de savoir que, bien voilà, si on reconnecte un petit peu, si on fait ce petit geste, cette petite attention, mais ça peut repartir très vite. Le sexe n'est jamais autant mort qu'on croit dans un couple. Si, en effet, il faut accepter quand même de vouloir retrouver sa part d'humilité parce que c'est pas donné, c'est pas un acquis pour tout le monde. Hein. Il y a certaines femmes, faut qu'elles aille la rechercher en elle.
Mais ça, rien n'est acquis, jamais, ni l'amour, ni l'animalité, ni rien. Mais ça me fait penser à une étude que j'ai vue récemment où on voyait que des couples qui n'arrivaient plus à se reconnecter par la parole, parce que là on parle de communication, mais du coup peut-être on peut comprendre que la communication du langage, mais évidemment il y a la communication des corps. Et l'étude montrait que ces deux personnes, homme et femme, il se trouve, mais ça aurait pu être homme-homme ou femme-femme, avaient décidé de se donner un moment pour soi sans parler et juste au corps à corps. Et en fait, ils avaient vraiment réussi à se reconnecter au niveau de l'énergie, etc. Et parfois, ça donnait lieu à un acte sexuel, parfois non. Mais c'était quelque chose, vraiment, c'était un temps qui se donnait pour eux. Et ça, c'est peut-être une clé.
C'est pour ça que je parle toujours de l'intimité. Les couples qui n'ont plus d'intimité, c'est-à-dire qui, par exemple, se rentrent le soir et se font à peine la bise. C'est moi, quand je vois des couples qui se retrouvent et qui se font une bise, comme on ferait à notre collègue de travail qu'on n'aime pas, hein, en plus, je me dis, mais où est leur intimité? Comment ils peuvent encore baiser? Ou s'ils baisent, ils baisent forcément mal. Parce
mécaniquement.
C'est
presque un devoir.
Mais autant prendre une poupée gonflable, quoi.
Oui. Mais c'est vrai que les femmes, pour être attirées dans le désir, ou pour créer du désir, elles ont besoin d'être quand même souvent considérées comme sujets. C'est-à-dire qu'on les voit dans leur globalité, qu'on les aime tout entière, exclusivement, pour peut-être autre chose
et
d'ailleurs
c'est
que le désir
sexuel.
Et c'est
en ça que c'est assez pénible en tant que femme, lorsqu'on est en train de faire quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Par exemple, je sais pas moi, repasser ou ranger. Et puis qu'il y a notre mec derrière et qui vient nous ploter les fesses, les seins.
Oui, c'est de la demande directe.
C'est assez. On n'a pas réellement l'impression à ce moment-là d'être un sujet sexuel. On a plutôt l'impression d'être.
Nous, on voit un objet. Mais on voit un objet.
Mais oui,
c'est clair.
Mais, je veux dire, on a toutes vécu ça.
C'est vrai.
Faut oser le dire, non?
Bien sûr. Oui, je crois que. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est un des défis que la femme redevienne sujet et qu'elle ne se laisse pas enfermer dans le contexte, dans l'objet, quoi.
Oui, mais les femmes, au bout d'un moment, détestent ce rôle d'objet. Et c'est dommage, parce que de temps en temps, c'est sympa d'être un bel objet.
De temps en temps, c'est formidable d'être un bel objet.
Si c'est nous qui le choisissons, c'est toujours pareil. Choisir d'être objet, choisir d'être soumise, choisir d'être tout, c'est cool.
Certaines rejettent ça en disant, mais c'est complètement.
C'est-à-dire que si on n'est que ça, ça devient pas.
Oui, si on n'est que ça, mais en général, c'est pas vraiment le cas. Mais le rôle d'objet, c'est vraiment une peur bleue de la femme, quoi. Et pourtant, c'est plutôt sympa d'être un bel objet de temps en temps sexuel.
Ah oui, pourquoi tu crois que les hommes, ils seraient OK pour être des petits objets sexuels de temps en temps?
Mais je pense
de manière sympathique.
D'ailleurs, je les invite à le faire. D'être l'objet au service d'eux. Je leur dis souvent, il faut inverser les tendances. Il faut que la femme prenne l'homme comme un objet sexuel.
Ouais, mais l'objet sexuel, quand on prend l'homme comme un objet sexuel, il y a souvent l'objet qui se casse, en tout cas qui reste en berne, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est ça, je suis pas sûre que c'est
d'accord.
Ça dépend.
Bruno, on a de l'expérience.
Ouais.
Julia, pas loin
des
mois.
Il faut pas prendre toutes les initiatives non plus. Il faut nous faire croire qu'on
c'est ça,
qu'on
voilà.
Un peu quand même.
Exactement. Bon, enfin, je crois qu'on a dit pas mal de choses et j'espère que ça vous aidera à relancer votre désir dans votre couple si éventuellement vous êtes un petit peu en panne. Sinon, il vous reste à aller consulter, que ce soit Florence Escaravage sur son site ou Bruno Martin directement. Exactement, voilà. Et puis tout de suite, on va écouter les témoignages de Zouzou qui nous expliquait comment elle avait découvert le libertinage. Et puis juste avant, c'est Estelle qui nous avait confié à Michel Schumann et à moi-même son inquiétude vis-à-vis de son partenaire qui ne jouissait pas systématiquement.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.
Oui, bonjour.
Vous, votre partenaire, alors c'est le problème inverse, il ne jouit pas systématiquement. Hein, et c'est vrai que c'est assez embêtant.
Assez, surtout que, enfin, je pense qu'il apprécie nos relations sexuelles, ça c'est pas de souci. Mais moi je suis quelqu'un qui arrive à jouer assez vite, je suis toujours masturbée, donc je connais à peu près les points culminants. Par contre, lui, depuis qu'on, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, et lui, il n'arrive pas à avoir de relations sexuelles dites très ponctuelles, bestiales, enfin, voilà, j'ai envie, on se fait un petit moment, jusqu'à là, on a un quart d'heure devant nous, on peut le faire. Non, c'est pas possible, il ne jouira jamais. Et sur 5 ans d'histoire, ça n'est jamais arrivé, sauf que maintenant le temps il passe et j'aimerais bien de plus en plus vivre ce genre de choses. Et j'ai beau lui en parler, non, si je fais des fellations non plus, il ne jouit jamais. Donc lui, non, il n'y arrive pas. Donc à la limite, ça, je peux le comprendre, mais avoir une relation dite de courte durée, c'est pas que je recherche un éjaculateur précoce, mais c'est pouvoir se dire on se fait juste un petit moment de plaisir, que ça aille vite et on en ait profité tous les deux. Parce que moi, pour le coup, j'ai l'impression qu'il ne prend pas son pied.
Mais vous pouvez très bien avoir un petit coup vite fait et puis tant pis pour lui s'il ne jouit pas.
Si, et ça, à la limite, il le permet, mais alors... moi je suis frustrée maintenant que lui ne joue pas.
Est-ce que lui s'en plaint?
Non. Non, mais moi je ne suis pas convaincue. Il a toujours envie de me faire plaisir. Il n'a que envie de me faire plaisir.
Mais c'est un peu systématique chez les hommes qui ne jouissent pas facilement. Ils ont une jouissance à voir leur partenaire jouir et à se retenir.
Il n'exprime pas cette jouissance, c'est-à-dire lui, enfin, c'est des mots, je voudrais bien le voir se lâcher physiquement, enfin, sentir.
Ah, mais c'est très cérébral, bien sûr, oui.
J'aimerais voir, je ne sens pas que moi, je domine. Pour le coup, il maîtrise tout. C'est ça qui me frustre.
Ah, ben, bien sûr, mais on est en effet dans une notion de contrôle.
Mmh, c'est un homme qui ne sait pas lâcher prise.
Complètement. Et j'aimerais bien pouvoir le faire lâcher prise.
Plus vous allez lui réclamer, plus il va jouir de se retenir.
Et donc, vous n'avez pas d'astuce, donc, pour que.
Si, je vais quand même vous en donner une d'astuce. Mais d'abord, je crois qu'il faut que vous preniez votre plaisir rapidement et que vous ne teniez pas compte du fait que lui ne jouit pas. Mm-hmm. Il faut être un peu égoïste en amour. Mm-hmm. On le dit de temps en temps et on le répéterait peut-être un peu plus souvent que ce serait mieux. Et puis sinon, ce qui peut-être, hein, encore une fois, ça va dépendre des raisons qui font qu'il ne jouit pas. Ce qui marche parfois, c'est quand on va toucher la zone anale.
Voilà, pas du tout. Déjà les testicules, il est très sensible, faut pas toucher. Au niveau anal,
il faut pas toucher parce que justement, ça l'excite trop et qu'il risque de jouir, donc il faut pas toucher. Vous êtes d'accord, Michel Schumann?
Je suis d'accord. Ça fait longtemps qu'on le dit, aussi bien vous que moi, que la région anale et même le touche, le fait d'introduire un doigt et d'appuyer sur la prostate, c'est l'équivalent du point G chez la femme.
Mais tous
les hommes ne sont pas prêts à l'accepter.
C'est ça. Mais par contre, pour les testicules, je sais que c'est petit, il a eu une hernie. Et depuis, il a un testicule qui est un peu plus haut que l'autre. Il n'aime pas qu'on touche du tout. Du tout.
On peut le comprendre, mais il a une roue de secours.
Oui, normalement. Donc, ça serait au niveau prostatique d'aller le stimuler un petit peu.
D'accord. S'il est d'accord, essayez.
De toute façon, Estelle, il faut le surprendre pour qu'il se déconnecte de son contrôle et qu'il lâche. Parce qu'en fait, je suis sûre que je suis sûre qu'il arrive à jouir. Donc, voyez, mais il est dans un contrôle. Il est comme ça très crispé. Hein. Donc, il faut le surprendre. Vous le pincez, vous lui, vous voyez ce que je veux dire. Vous lui tirez les cheveux. Si vous avez une complicité tous les deux, vous pouvez vous amuser à ça.
Ah si, par contre, pour toucher tous les autres endroits, il n'y a pas de problème. Il se laisse complètement faire.
Tordez-lui les mamelons, peut-être, je ne sais pas.
Ah si, il adore ça. Pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire, moi, dès l'instant où j'ai joui, pour le coup, je m'ennuie après.
Oui, bah, vous n'avez aucune raison de continuer.
D'accord, je le laisse jusqu'à ce qu'il finisse par accélérer.
Après c'est son problème. S'il a envie vraiment de jouir, il a deux mains. Il n'est pas manchot.
Non. Bon. Par contre, ça... D'accord.
Merci Estelle. Merci.
Bonjour, merci beaucoup. Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et puis Zouzou voudrait réagir, voudrait nous parler de libertinage. Bonjour Zouzou. Zouzou.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Je voulais vous raconter comment j'ai découvert le libertinage. C'était une envie de tester la double pénétration après avoir découvert le plaisir anal avec mon partenaire de l'époque. Oui. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir la possibilité de le réaliser. Et l'idée de le faire dans un sauna libertin est venue assez rapidement, puisque c'était plus compliqué que je ne le pensais de le réaliser avec des personnes que je connaissais. J'ai testé. J'ai vraiment trouvé très bien adapté pour des personnes débutantes que j'étais à ce moment-là. Et puis on m'a expliqué effectivement le fonctionnement, les règles, où tout est possible et rien n'est obligatoire. Je suis, rentrée dans ce rôle où j'ai plutôt retiré plus exactement tous les rôles que j'avais une fois à l'intérieur, et je me suis lâchée sans me prendre la tête avec ce que peuvent penser les gens, puisque le contexte s'y prête énormément. Et puis j'ai pu complètement me lâcher, et puis ça s'est terminé. Quasiment, je sais pas si on peut le dire, en orgie. Je me suis lâchée dès la première fois. Après, c'est pas forcément le cas de tous ou de toutes, mais je trouve que c'est un lieu, quand il est bien géré, qui permet vraiment de se lâcher et de plus avoir d'a priori sur ce que peuvent penser les autres, et on s'écoute soi-même, ses propres désirs.
Vous avez raison, si le club libertin ou le sauna, enfin qu'importe, est bien tenu, en effet, il y a des gens qui sont là pour avoir du sexe, uniquement du sexe, et qui n'ont aucun jugement de ce qui se passe à côté. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dans une ambiance où vous vous sentez totalement libre de vous lâcher. Et donc, vous avez pu réaliser votre fantasme ?
Oui, et même plus, puisque on était, je sais pas, je crois qu'il y avait au moins 5 garçons. À un moment donné, il y a même eu un couple aussi qui s'est joint à nous. Enfin, c'était un assez gros lâchage, quoi, une expérience assez forte. Et puis du coup, moi, j'ai vraiment pris goût à ce milieu-là où je me sentais complètement libre d'assumer toutes mes envies. Voilà. Après, il suffit de dialoguer pour connaître les envies de chacun et respecter éventuellement les contraintes des uns des autres, quoi, s'il y en a. Mais enfin voilà, c'était vraiment une découverte.
Et donc,
adepte, voilà, j'y vais.
Oui, j'ai bien compris que vous y avez trouvé votre compte, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que là, bah, c'est vous qui avez eu envie d'aller dans un club pour pratiquer d'abord un de vos fantasmes, donc la double pénétration.
Exactement.
Votre compagnon, visiblement, était bien sûr d'accord, mais c'est pas lui qui vous a entraîné, et c'est vous qui avez trouvé le plus de plaisir.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, c'est un sujet que j'essaye de partager le plus souvent possible. J'aime beaucoup votre émission qui prend la sexualité et ses travers, si je puis dire, plus accessible et plus, comment dire, excusez-moi, je trouve pas les mots. Comment dire, vous rendez le sujet un peu plus démocratique. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien que ça continue d'évoluer. Votre émission contribue.
Bon, à mon avis, Zouzou, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Hein. Je crois que vous êtes relativement libre et vous assumez vos fantasmes.
Mais j'aimerais qu'il y en ait plus pour qui le sujet serait moins tabou, parce que je suis obligée de vous appeler avec justement un pseudo. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais vraiment que le sujet de la sexualité soit abordé de manière beaucoup plus courante dans les sujets de conversation quotidien.
Mais je crois pas. Vous voyez, Zouzou, je suis ravie de faire cette émission et je suis ravie de contribuer à ce que chacun puisse plus facilement peut-être vivre une sexualité libre. Mais je crois pas qu'il faille parler de sa sexualité dans les dîners mondains le soir. Vous voyez, je crois qu'il faut quand même que ça reste de l'ordre de l'intime. Alors bien sûr, moi j'en parle sur une radio grand public, hein. Mais j'en parle en respectant, si je puis dire, l'anonymat et l'intimité de chacun. Vous voyez,
j'entends bien, et je suis assez étonnée que vous me parliez de ça, parce que j'aurais pensé que vous puissiez aborder le sujet un peu plus souvent, et pourquoi pas un dîner mondain. On parle de politique, on parle de religion, on parle de plein de choses, pourquoi pas parler de sexe.
Mais parce que ça reste de l'ordre de l'intime, Zouzou. Vous voyez, quand vous vous envoyez en l'air dans un sauna et vous faites l'amour avec plein d'hommes, bon, ben, vous faites quelque chose qui fait partie de votre vie privée, mais vous n'allez pas le lendemain, quand vous allez rencontrer votre patron, lui raconter ça. Il faut en effet être libre, se lâcher, se donner du plaisir, mais ça doit rester de l'ordre de l'intime. Sinon, ça va être un grand bordel, et il y a déjà assez de bordel comme ça dans notre société. Et justement, libertinage, on en parle dans un instant.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et ce soir, c'est en compagnie de Florence Escaravage, la fondatrice de Love Intelligence, que vous pouvez bien sûr retrouver sur Internet. Julia Palombe est avec nous également, chanteuse, rockeuse, écrivain. Son dernier CD, c'est Dr Love. Bruno Martin, vous avez fort à faire avec nous trois. Hein.
Bah voilà, ça va. Trois contre un, voilà. Je gagne, moi.
Bah, vous êtes un ancien rugbyman.
Ouais, je devrais pouvoir m'en tirer quand même.
Vous en tirez, doute pas. Alors ce soir, on a testé pour vous le club libertin. Alors le club libertin, ça englobe beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de clubs, mais ça englobe évidemment l'idée qu'on y va en couple pour rencontrer d'autres personnes, peut-être voir des scènes de sexe, peut-être participer à des scènes de sexe. Alors il y a des clubs plus ou moins chauds, il y a maintenant des guides qui sont très bien sur les clubs dans toute la France. Alors je ne sais pas si vous connaissez personnellement, et je ne veux pas vous poser de questions indiscrètes, hein, vous dites ce que vous avez envie de dire, mais je crois que ce qui est important quand on a envie d'aller en club libertin, surtout si on n'est pas libertin, si on n'y a jamais été, c'est en effet qu'il y ait une communication préalable de manière à bien définir l'un et l'autre ce qu'on a éventuellement envie d'y trouver, non ?
Une règle.
Oui, eh bien, au sein de l'Intelligence, on accompagne quelques personnes et je vois beaucoup sur ce sujet, je vois beaucoup de femmes qui sont en effet finalement assez prêtes à, c'est plutôt à l'initiative de l'homme pour faire plaisir à l'homme, de tester l'expérience avec voilà, mais c'est assez cadré, c'est-à-dire c'est un certain nombre de fois dans l'année, en après-midi et je trouve qu'il y a de plus en plus d'ouverture, de compréhension de la sexualité, voilà, multiple, variée. Je trouve que le couple français a beaucoup évolué là-dessus.
Oui, c'est démocratisé, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je disais, que peut-être qu'il faut quand même être assez clair au départ sur ce que chacun a envie d'y trouver pour pas y aller, oui. Et puis tout d'un coup, dans le feu de l'action, il se passe des choses qui vont tout à fait déplaire à l'autre partenaire. Enfin, oh. je crois qu'il y a quand même une précaution à prendre avant de franchir la porte.
Il faut bien dire, bien donner ses propres limites. Ce que j'observe, c'est que souvent, d'ailleurs, les femmes observent. Les femmes disent ok, je veux bien t'accompagner, mais à ce moment-là, j'observe. Et puis après, si ça se passe autrement, tant mieux. Mais souvent, c'est leur manière de.
Moi, il se trouve que je travaille pour Wild. Maintenant, j'écris dans le magazine Wild depuis un petit moment. Et ce magazine, oui,
qui a été lancé par Net et Gentilisme.
Exactement. Et donc, qui est dédié au couple. Et il se trouve que j'ai justement les rubriques sur les clubs libertins. Donc, j'ai fait beaucoup de reportages en France et à l'étranger. Maintenant, j'ai carrément la rubrique Europe. Et donc, je remarque, même si c'est à chaque fois, les pays ont leurs spécificités, évidemment, liées à leur culture. Mais c'est vrai que c'est très important de vraiment instaurer un vrai dialogue et une base solide dans le couple avant d'aller en club. Les derniers reportages que j'ai faits, tous me disent que c'est vraiment une des choses importantes, même par rapport aux questions qu'on peut se poser sur la jalousie, par exemple, sur la possession, qui sont au cœur de cette décision d'aller libertiner. Bon, ils me disent que c'est des questions qui se sont posées avant d'aller
en
club.
Mieux. Et il ne faut pas hésiter, d'ailleurs, quand on arrive et qu'on est complètement novice, de le dire au chef de l'État. Établissement qui a l'habitude.
Ils le voient. Généralement, ils oui. sont. Oui, parce que surtout à Paris, moi je recommande. Enfin, je ne sais pas si on peut recommander d'ailleurs.
Mais allez-y, Julie.
Non, mais juste, j'ai envie de recommander le club Le Taken parce que j'ai découvert ce club.
On voit que vous êtes un habitué, Bruno
non,
Martin.
Il est tard. On peut tout dire à cette heure-là, normalement.
Et certains. Voilà, en tout cas, le boss du Taken, je voyais qu'il avait une relation, il connaissait ses clients. Enfin, il y en a de plus en plus qui ont une relation.
Moi, j'ai rencontré mais enfin, qu'ils connaissent. J'ai rencontré celle qui dirige les chandelles bien et qui est thérapeute a priori mais également oui. Et je pense qu'elle a en effet aussi une approche plus apte à aider des novices.
Oui, puis ils font visiter tout de suite quand ils voient qu'ils connaissent pas. Même maintenant, ils sont vachement vigilants aussi sur les jeunes justement parce que c'est super qu'il y ait, que les jeunes aient envie aussi.
Ça, c'est très nouveau parce
oui,
que
c'est très
à
nouveau.
Ma grande époque en 76-77 quand je fréquentais les clubs libertins, il y avait très peu de jeunes. Hein,
C'est étonnant, hein, parce que moi j'en rencontre de plus en plus, même aussi dans le cadre des consultations, et c'est vraiment étonnant de voir le nombre de jeunes tenter l'expérience aujourd'hui. D'ailleurs, on se demande exactement ce qu'ils vont y chercher, parce que finalement, bon, on peut imaginer qu'ils ont accès à pas mal de possibilités, mais non. Alors, on se demande même s'il n'y a pas une petite mode qui se cacherait derrière cette histoire, en disant, ma foi, moi je suis dans le vent, je vais tenter une expérience comme une autre, et ils y vont.
Pourquoi pas ? Est-ce que je trouve juste dommage, peut-être, mais encore une fois, j'ai pas de... sauf si on est vraiment libertin dans l'âme. Je pense qu'un un jeune couple qui se rencontre et qui est très amoureux, je pense qu'il a plutôt intérêt pendant la première année à vivre sa sensualité, sa sexualité pour vraiment en profiter et se connaître profondément avant de pratiquer le libertinage. Mais enfin bon,
oui, mais d'ailleurs,
c'est mon avis. Hein, je ne dis pas que j'ai raison, je ne sais pas. Hein.
Mais au Taken, justement, le patron a refusé des jeunes couples qui avaient 25 ans. Hein. Mais il m'a expliqué, il se trouve que j'étais là pour le reportage, donc je l'ai vu faire et il les a refusés parce qu'il m'a dit non, en fait, ils n'ont pas l'expérience, presque le vocabulaire sexuel nécessaire à tenter ce genre d'expérience.
Oui, ils vont se brûler un peu, quoi.
Ils vont se brûler. Et il leur a dit, vous reviendrez quand vous serez plus grand. J'avais trouvé ça charmant.
Et bien voilà, on a testé pour vous le club libertin. Et tout de suite, je vous parle du Wikisex. Vous le connaissez peut-être pas encore. C'est sur rmc.fr et c'est un rendez-vous sur lequel vous trouvez toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur justement des problèmes de couple, votre sexualité, sur l'amour. Voilà, le Wikisex. Et puis, on va écouter dans quelques instants Sandra qui redoutait la grossesse. Mais tout de suite, nous écoutons le savoureux témoignage d'Angle et de ses premières masturbations plutôt précoces. Nous étions avec Ugraine.
RMC. Et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité.
Ugraine qui est avec nous, oui.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc voilà. Alors oui, moi je me souviens de la première fois que je me suis masturbée et la première fois que j'ai fait l'amour. Et c'est vrai que j'ai commencé vraiment très très jeune. Je devais avoir 7 ou 8 ans la première fois. Donc je m'en souviens très très bien. C'était sur un tabouret la première fois. Ça m'a même surpris. Du coup le soir dans mon lit. Je me suis masturbée pour la première fois, donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. J'étais vraiment très très jeune, mais je m'en souviens très bien.
Donc vous avez commencé sur le tabouret, vous avez terminé dans le lit, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est pas du tout pareil. Mais bon. Et suite à ça, en fait, j'ai pas arrêté de le pratiquer. Donc très très jeune, et ensuite c'est devenu très régulier, c'est-à-dire au moins une fois par jour. Pendant de nombreuses années, et même après mon premier rapport sexuel avec mon premier petit copain, qui fut catastrophique d'ailleurs, parce que j'étais extrêmement déçue, donc je m'attendais à beaucoup mieux, mais c'est vrai que ça a été très décevant. D'ailleurs, je m'en souviens même plus de la première fois avec mon premier copain. Et donc j'ai continué à le pratiquer jusqu'à présent. Et là, j'ai 34 ans et je continue de le pratiquer régulièrement. Et j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui aime ça. Donc voilà, ça participe à notre sexualité à tous les deux maintenant.
Oui, mais c'est bien Angie, parce que visiblement, vous êtes une femme qui se connaît bien, qui a su oser se donner du plaisir, et je pense que vous devez avoir une sexualité tout à fait épanouie, même si ça s'est pas bien passé la première fois, mais vous étiez peut-être tombée sur un manche. Hein.
Ça, c'est pas joli.
Oui,
ça.
Oui, on était.
Remettre la faute sur l'homme, c'est pas joli. Mais de toute façon, ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est la première fois dans la masturbation. Souvent, c'est un peu par hasard, c'est-à-dire que il y a une espèce de frottement qui se fait, et ensuite on y prend goût, et ensuite ça devient une activité, j'allais dire décidée, comme vous le décrivez très bien, et qui devient de plus en plus experte et qui se connaît de mieux en mieux. Et c'est ça qui est intéressant dans la masturbation, c'est que c'est une connaissance de soi, aussi bien au niveau des fantasmes qui nous habitent que du corps et des zones érogènes et des zones et la différence de ces zones. Et tout ça produit justement une capacité à mieux profiter de la vie sexuelle du couple. Et puis en effet, ça peut être aussi quelque chose qui appartient aux préliminaires, qui appartient à une certaine vie sexuelle du couple, comme des préliminaires par exemple.
Merci Angie. Sandra est avec nous. Bonjour Sandra.
Bonjour Brigitte.
Alors vous avez 33 ans.
Oui.
Et vous avez envie d'avoir un enfant aussi, sauf que vous avez peur de la grossesse. Alors ça va être compliqué.
Oui, j'avoue que c'est un peu problématique. Voilà, pour faire un peu court, il y a à peu près 2 ans, ce désir d'enfant et s'est installé un peu vite, à mon goût, certainement suite à l'entourage familial ou amical. Et puis, c'était vraiment très, très intense dans ma tête.
Vous aviez passé la trentaine, et ça, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent. Une femme qui tout d'un coup va dans la trentaine, hein, c'est-à-dire qui n'a plus 29 ans, mais ça y est, 30 ans, peut tout d'un coup se rendre compte qu'il est temps, et le désir, à ce moment-là, prend toute sa place.
Oui, surtout étant donné toutes les écoutes qu'on a autour de nous, beaucoup de personnes vous disent alors, moi personnellement c'est pas du tout quelque chose qui m'a mis la pression, c'est vraiment le ressenti en lui-même, donc ça fait l'année dernière mon compagnon a eu des soucis de santé, donc ça a mis un frein très vite dans ma tête, et puis là depuis quelques mois c'est lui qui a plutôt tendance à avoir pris ma place. moi, je suis encore réticente sur le vécu en lui-même, en fait.
Écoutez, je crois que dans votre cas, il faut aller explorer cette peur de la grossesse ou cette peur de l'accouchement avec quelqu'un qui va vous écouter et qui va pouvoir... parce que derrière cette peur, il faut comprendre ce qu'il y a réellement. C'est dommage. Parce que tant que vous restez avec votre peur, elle est très inhibante. Et on sait en plus que dans ces cas comme le vôtre, hein, c'est-à-dire l'envie d'être enceinte, s'il y a des peurs, ça peut vraiment bloquer la fécondation. Donc c'est dommage.
Oui, tout à fait. Enfin, là, j'ai quand même passé déjà le cap de cette contraception, donc il y a quelques mois, ce qui amène quand même à des petits problèmes après au niveau de la libido.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a une peur d'être enceinte, comme vous n'avez plus de contraception, il est normal que votre libido, elle soit un peu inhibée par cette peur. Donc c'est vraiment important d'aller l'explorer, cette peur. Parce que la peur, il faut toujours rappeler que la peur, on ne peut pas l'évacuer comme ça d'un coup de baguette magique. En revanche, on peut l'apprivoiser. Et quand on comprend réellement quelle est cette peur, parce que la peur, c'est un mot qui englobe tellement de choses, tout doucement, on arrive à faire avec.
Alors c'est vrai que les mois qui passent fait que j'accepte de plus facilement cette décision. Mais comme je suis pas... en harmonie avec ce choix, du coup, ça m'amène quand même à...
Mais est-ce que vous pouvez dire de quoi vous avez peur ?
En fait, j'ai vraiment pas peur du tout. Alors, ce qui est assez étonnant, l'accouchement, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui m'effraie du tout. Mais c'est vraiment juste le ressenti. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de contrôler, en fait, les choses. Et on me l'a assez souvent dit. Et c'est vrai que le jour où je verrai ce test positif, c'est ma réaction. J'ai peur de ma réaction. J'ai peur de ne pas accepter.
Oui, alors, il y a deux choses que je peux vous dire, Sandra. D'abord, vous n'ayez pas peur de l'accouchement, c'est assez logique, puisque de toute façon, comme vous avez peur d'être enceinte, vous risquez pas d'être enceinte. Donc, pour l'instant, l'accouchement, il est pas là. Mais, en même temps, ce que vous m'avez dit après, va permettre aussi d'expliquer pourquoi vous n'avez pas peur de l'accouchement, parce que ce sera une délivrance pour vous. Alors que ce qui vous inquiète, me semble-t-il, là, encore une fois, je fais une interprétation un peu rapide, mais je pense que ça vaut vraiment le coup que vous alliez parler avec quelqu'un plus précisément. Je crois que ce qui vous inquiète, c'est que vous allez vous retrouver avec un corps étranger en vous.
Tout à fait, oui.
Et qui va, d'une certaine manière, un petit peu prendre le pouvoir, parce que il faut quand même rappeler que le fœtus prend beaucoup, hein, sur la vie de la mère, sur la santé, sur et ça vous effraie. Donc il faut aller comprendre pourquoi vous avez peur de ce corps étranger qui va en effet vous modifier, vous bouleverser. Et ça c'est dans votre propre histoire que vous allez trouver. Est-ce que ça vient de votre mère qui a eu une grossesse difficile? Est-ce que ça vient de vous à un moment donné qui a été très malade dans la prime enfance? Je ne sais pas, moi je ne connais pas votre vie. Mais voyez, ça fait résonance à quelque chose qui est en vous.
Mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai dû consulter une fois pour d'autres raisons, ma psychologue m'avait demandé, parce qu'actuellement elle était enceinte, et elle a vu ma réaction et c'est vrai que j'avais confié que ma mère... j'étais pas trop prévue au programme, on va dire, et maman m'avait vu avec le stérilet, quoi. Et pourtant, moi, c'est pas quelque chose du tout qui m'a surpris, qui me gêne, ce petit crochet qu'elle avait fait sur ma vie passée familiale, si vous voulez. Donc, j'ai vraiment, je cherche, voilà, je cherche.
D'accord.
Pourquoi.
Mais peut-être que vous avez peur de ne pas suffisamment désirer cet enfant comme vous n'avez pas été désiré, vous voyez. Mais allez élaborer tout ça avec quelqu'un de sérieux, ça va vous libérer, franchement. Parce que sinon, vous allez, vous allez peut-être arriver à être enceinte, mais vous allez vivre une grossesse qui va pas être drôle et c'est dommage parce que c'est quand même un moment de la vie extraordinaire pour une femme. Ça se renouvelle pas quand même sans cesse, donc autant le prendre le mieux possible. D'accord.
Oui, très bien. Je vais. C'est vrai que même mon compagnon me dit bon, voilà, il faut être un petit peu sous fait accompli. C'est vrai que j'ai besoin d'être bousculée souvent dans certaines décisions quand je suis pas dans le contrôle. Mais justement, je pense qu'il a
il a une réaction d'homme et c'est normal. Les hommes ont tendance à dire que c'est l'action qui nous fait bouger et que de toute façon, on fait et puis les choses avancent.
Et on va se retrouver pour parler d'un tout autre sujet. On a parlé de désir, libertinage. On va parler maintenant de tâches ménagères.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et nous sommes toujours en compagnie de Julia Palombe et de Florence Escaravage avec notre homme Bruno Martin qui assume très très bien. Bruno, on est fiers
beaucoup,
de vous, quel
homme. Je fais ce que je peux, je suis à fond.
Est-ce que vous faites un peu les tâches ménagères chez vous, Bruno?
Honnêtement, très très peu.
Ça mais c'est, pas c'est, mais c'est pas non mais c'est un vrai homme que
non,
nous avons
ce soir. Je n'ai pas le temps.
La virilité,
mais j'essaie de compenser. Je veux finir quand même. Je vais me faire massacrer. Hein.
Est-ce que vous bricolez quand même un peu?
Pas du tout, oh non. Bah,
non, mais que faites-vous, Bruno?
Des tas de trucs. Moi, je surcompense. Je fais des tas de trucs autres. Mais c'est vrai que c'est
quoi,
des...
Quoi bah,
j'embauche des gens pour le faire. C'est déjà pas mal.
Je sais. Et je les paye.
Ouais. Je les paye. Voilà. Non, mais je préfère faire des choses pour payer ces gens-là plutôt que de les faire parce que j'ai des choses vachement plus intéressantes à faire.
Oui, d'accord. Oui,
alors que la femme, non.
C'est bien connu.
Elle n'est pas condamnée non plus au ménage. Mais bon, franchement, quand on, voilà, on fait des choix. Mais c'est pas mon truc. Hein.
Moi non plus, passer l'aspirateur, c'est pas mon truc. Ramasser les bêtises qu'a fait le chien, c'est pas mon truc. Mais au moment où le chien a fait une bêtise, si on le ramasse pas et que la femme de ménage ne vient que le lendemain, il faut quand même bien que quelqu'un le fasse.
Ouais,
hein.
Ouais. Non, mais j'en fais quand même quelque peu. L'essentiel, je sauve les apparences.
Moi, ce que j'observe,
Florence,
c'est vraiment maintenant qu'on peut dire qu'ils sont tous sur un pied d'égalité, ces hommes et ces femmes dans le couple. Il y a la notion d'exigence qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire celui qui est le plus exigeant sur la propreté et l'ordre est finalement celui qui va le plus en faire. Et
non, ça, parfois c'est juste la femme.
Et parfois c'est l'homme. Et donc on accompagne beaucoup de couples et moi je suis frappée de voir que les problèmes évidemment de l'ordre
j'ai pas de
et
bol,
du rangement.
Je suis très exigeante.
Voilà, le problème de l'ordre et du rangement est un problème. Je pense que c'est quasiment le problème majeur.
Oui, mais c'est
du coup.
Non mais bravo, c'est très juste ce que vous dites. Je crois que là,
et donc,
là
celui
là,
qui souffre. C'est celui qui est exigeant parce que finalement l'autre prend plus de liberté par rapport à ça et donc et parfois c'est l'homme, parfois c'est la femme, il n'y a vraiment pas de règle et j'ai envie de dire c'est quasiment du 50-50 sur la question. Et donc on ne peut pas trouver de consensus satisfaisant sur cet aspect-là des choses. Donc il faut comprendre d'où vient finalement cette injonction à l'ordre de la part de celui qui a cette exigence élevée pour essayer de lui demander plus de souplesse et celle ou celui qui a trop de souplesse, eh bien, essayer de trouver une ligne du respect.
Mais ce qui marche quand même pas mal, je trouve, c'est quand on se répartit différentes fonctions. Parce qu'après tout ça, ça peut se discuter comme le reste. Par exemple,
tu remplis la vaisselle et
tu sors la poubelle. Moi, je m'occupe de
mais en fait,
faire
la nature,
à manger,
la nature a horreur du vide. Donc ces choses-là, Brigitte, se font souvent assez naturellement. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas fait. Par exemple, les poubelles.
Mais
donc au bout d'un moment, il y en a un qui endosse cette tâche-là.
Mais si on le fait à contre-cœur, parce que l'autre finalement ne l'a pas fait, ça crée de la rancœur. Alors que si c'est discuté, on peut dire à son compagnon.
Contrat, ça fait pas de
tiens,
mal.
Tiens, tu n'as pas encore rangé ou tu n'as pas encore fait bricoler tel truc.
Et puis c'est admis,
mais
ça va mieux.
C'est pas facile d'aller parler de ces choses-là. C'est-à-dire, vraiment, le problème numéro un du couple, c'est la lutte des frontières, la lutte de pouvoir. Et j'ai ma manière de faire et toi, tu n'as pas cette manière de faire. Et c'est la lutte permanente sur ces questions-là. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle chez l'homme intelligent le stade 3 du couple. Il y a 90% des divorces qui résident dans ce stade où finalement chacun défend sa manière de faire. Et le problème numéro un, c'est l'histoire de l'ordre et du ménage.
Oui, mais enfin, parfois c'est un peu, à mon avis, des excuses qui se cachent là derrière tout ça. Moi, je vis dans un joyeux bordel et on est tous les deux pas du tout exigeants là-dessus. Mais,
souvent, comme les contraires s'attirent, c'est le modèle que vous avez pas très fréquent souvent. Quelqu'un qui vient d'une éducation assez ordonnée, etc., va être attiré par quelqu'un de plus libre. Et moi, je remarque, chez les couples, il y a beaucoup de contraires, justement, sur cette notion de l'ordre. C'est-à-dire quelqu'un d'ordonné et l'autre
beaucoup plus. De manière, il y a autant de modèles que de couples,
j'ai envie de dire presque, mais derrière cette idée de tout bien mettre en ordre, bon, il me semble quand même qu'il y a un esprit assez
est-ce que vous avez géré ce problème très facilement dans votre couple, justement, puisque ni l'un ni l'autre c'est d'être exigeant?
De liberté, d'une créativité libératrice, tu vois, c'est une espèce de truc. Non, c'est pas vraiment réglé, dans le sens, on n'a pas vraiment fait, comme vous dites, de contrat, mais enfin, quand même, on en parle. Parfois, on paye des gens pour, des femmes de ménage pour le faire. Surtout aux périodes, par exemple, quand j'ai eu mon enfant, bon, là, c'était pour moi une évidence, j'allais pas le faire, donc personne n'allait le faire. Mais sinon, j'en ai aussi ce truc d'être psychorigide sur tout doit être bien propre, etc. Bon, moi, ça me fatigue un peu, peut-être parce que je suis née dans la campagne et c'était assez. C'était
non, ok, mais sans être pas... psycho. Moi non plus, je suis pas psychorigide, sinon je pourrais pas avoir les animaux qu'on a chez nous.
Ou
quand on a.
Oui, sans être psychorigide, il faut quand même
trois enfants
ranger,
en bas âge,
etc.
On peut pas être psychorigide, ou alors on se rend malade. Mais malgré tout, il y a quand même des tâches ménagères qui doivent être faites quotidiennement.
Sur ça, je vous rejoins, Brigitte, parce que je pense que c'est vachement agréable. Une fois qu'on en a discuté, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de le
aussi,
faire.
Et puis ça évite.
Par exemple, moi, j'ai demandé à mon mari de faire que je lui ai dit, quand on débarrasse, on met dans la vaisselle, sinon ça n'a aucun intérêt de tout entasser dans l'évier. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est super, mon chéri, merci de le faire.
Finalement, je m'aperçois que je fais plein de trucs.
Ça évite aussi à la femme, ou à l'homme, de hurler quand elle l'a pas fait. Puisque si on en a parlé, ça évite de passer au stade où je le dis pas, donc du coup je garde tout en moi et du coup j'explose au moindre truc.
Moi, le conseil que j'ai envie de donner à celui ou celle qui est moins exigeant, c'est de comprendre que sa moitié souffre, en fait. Parce que comme elle est exigeante, eh bien elle est agressée dès qu'elle rentre dans l'appartement ou dans la maison par des petites choses que vous ne voyez même pas. Et donc, en fait, faut chercher à comprendre que cette personne-là, si elle est aussi justement si elle est aussi violente dans ses besoins que les enfants rangent ou que son compagnon range, c'est parce que pour elle c'est une agression visuelle, en fait.
Mais on peut quand même en parler gentil, simplement, en définissant quand même un territoire et des comportements réciproques. Moi, je suis d'accord pour dire, quel est ton temps, quelle est ta disposition, toi t'es plus apte à faire ceci ou à faire cela. On s'entend sur un préalable et ensuite les choses vont bien ou de soi. Il peut y avoir quelques petits oublis de temps en temps, mais absolument. En général, la bonne volonté, c'est ok.
C'est là où on revient une fois de plus à cette importance de la communication dont vous parlez beaucoup, évidemment, Florence Escarévage. Elle est difficile de deviner ce que son interlocuteur pense vraiment lors d'un premier rendez-vous amoureux ou d'un entretien d'embauche. Et pourtant, il y a des signes, ou plus exactement des gestes, qui sont révélateurs. On en avait parlé avec Manu et Stéphane Bunard. Je vous propose qu'on écoute maintenant.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Late Night Show.
Bonjour Manu.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Oui,
bonjour.
Tout à fait. J'ai plein de questions à poser à Stéphane. Si on peut faire vite, j'aurais voulu savoir déjà une personne qui est en face de vous et qui se gratte le coude pendant que vous lui parlez. Déjà, quel sentiment elle a ou quelle expression elle veut ressortir. Le deuxième, c'est savoir une personne qui est fortement sous l'emprise de l'alcool, est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle dit la vérité absolument? Par exemple... c'est vrai que des fois ça peut être blessant. Et la troisième, c'est savoir si une personne, comment on pourrait détecter qu'une personne vous ment.
Okay.
Donc la première, le coude, le deuxième, l'alcool fortement alcoolisé, puis la troisième, le mensonge.
D'accord. Bon, je vais d'abord répondre sur l'alcool. C'est sûr, ça désinhibe. Alors, est-ce que ça va donner un surcroît de gestes qui sera du coup plus interprétable, et donc du coup la personne désinhibée fait plus de gestes, donc donne plus matière à se faire interpréter. Bon, voilà. Donc après, il faut voir ce qui va se passer. Les micro-démangeaisons. Alors, le coude, ça peut être l'idée de vouloir, on va dire, grosso modo, ça peut être l'idée de vouloir aider, avancer avec l'autre. Quand on se gratte, en fait, c'est le propre des micro-démangeaisons. Alors évidemment, il faut évacuer toutes les raisons conscientes qu'on a de se gratter. Les puces. Parfois, il y a aussi, j'en parle dans le livre, parfois des pathologies, comme le diabète, comme la spasmophilie, qui est quand même assez répandu, qui font qu'on va avoir des prurites un peu particuliers. Bon, mais
effectivement, dans un certain contexte, l'idée, tout ce qui concerne le bras, le coude, l'avant-bras, c'est l'idée de d'aider. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être plus ou moins gêné aux entournures dans l'idée d'aider. Voilà. Une micro-démangeaison, c'est le signe d'une tension. Il y a un problème entre le contexte que je vis, peut-être ce que je raconte, et la façon dont je l'intègre émotionnellement ou intellectuellement. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour dire, sur les micro-démangeaisons, d'où ça vient. On est, par exemple, en réunion, souvent ça arrive le cas, ou avec quelqu'un, puis on a envie de partir. Et puis, parfois, les conventions sociales l'interdisent, ou on peut pas le faire. Donc, le cerveau va envoyer, sous la forme d'un influx nerveux, un signal compensatoire, sous la forme d'une micro-démangeaison, à un endroit qui est logique dans l'évolution de l'espèce. Si j'ai envie de fuir, je me gratterai les jambes. Pas les lobes d'oreilles, évidemment. Voilà. Donc, ça peut être ça. Quant au mensonge, c'est un vaste débat, comme dirait l'autre. Le problème, c'est que dans le mensonge, parfois, on peut être mal à l'aise, et on peut avoir des signes de mal-être et que ça passe, j'allais dire, pour du mensonge. Donc c'est pour ça que nous, de plus en plus, on est très prudents sur le décodage émotionnel du mensonge. On va aller sur d'autres critères. Donc déjà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Quand la personne est en face de nous très traversée par, très nettement traversée par une émotion, méfions-nous de ne pas confondre
le fait qu'elle le malaise, ou
le mal-être et le mensonge. Bon, premier point.
Et si par exemple, elle a les yeux levés vers le ciel.
Non, mais alors le coup des yeux. Oui, non, mais excusez-moi de vous couper tout de suite, mais c'est parce que vous m'avez dit d'aller vite, donc j'ai bien saisi. Le coup de la direction du regard, c'est de moins en moins validé. On peut être un bon menteur, un fief menteur, et regarder l'autre dans les yeux.
Vous voulez dire qu'on contrôle finalement très bien notre regard.
On peut très bien contrôler le regard. Par contre, si on a une émotion négative ou positive, une émotion tout court, la paupière gauche va avoir une espèce de clignement intempestif. On peut avoir aussi des deux yeux, des surcroît de clignement. Normalement, on cligne toutes les 5-6 secondes, on va avoir des clignements en grappe, comme par exemple DSK quand il est face à Claire Chazal, comme par exemple François Hollande qui nous montre qu'à un moment donné, justement, il est dans... Non, il commence à improviser son anaphore, etc., etc. Alors, il y a des signes très nets.
Tout ça, bien sûr, vous le retrouvez dans l'ouvrage de Stéphane Binard.
Il y a des signes très nets du mensonge. Mais ce qui est important, ça va être de voir les changements comportementaux. Alors, par exemple, c'est vrai que quand quelqu'un se raidit dans ses dispositions mentales, il va avoir la tête, par exemple, qui va pencher vers la droite. Ou alors, il va regarder peut-être un peu plus avec l'œil droit. Ou alors, il va y avoir le phénomène des lèvres rentrées, ce qu'on appelle la bouche en huître. Je ne vous dis pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est du mensonge à chaque fois. Hein, mais ça veut dire qu'il y a un changement comportemental, il y a un raidissement.
Mais en gros, Stéphane Binard, j'ai l'impression quand même, quand je vous écoute et puis même quand j'entends ce qu'on me dit tous les jours, que quand on est face à son partenaire et qu'on lui pose une question qui éventuellement peut déranger, genre est-ce que tu m'as trompé ou est-ce que, etc., on peut pas.
Tu as un homme dans ta vie.
On peut pas arriver à deviner si l'autre va nous mentir ou pas, parce que de toute façon on est même déjà soi-même tellement émotionnellement chargé.
Ouais, pris.
L'autre de toute façon peut être dérangé par la question qui de toute façon est une question dérangeante. Hein. Je pense qu'il y a pas ce petit signe miracle qui va faire qu'on va savoir si l'autre nous répond la vérité.
Non, il y a pas de signe miracle. Il y a quelques signes, par exemple une micro démangeaison quand on se gratte sous la base du nez de la narine. Ça c'était typique dans l'affaire Clinton. On peut voir parfois une peur fugitive, c'est-à-dire qu'il va y avoir une remontée des pointes des sourcils. La peur, c'est vrai que c'est une émotion qui est détectable. Quelqu'un qui va vouloir être précis, normalement on est précis en joignant les mains en pince, les doigts, le pouce et l'index. Chaque fois qu'on voit ces signes-là dans des affaires criminelles ou dans des affaires d'État, on peut être sûr qu'il y a un gros non-dit. Sauf que chaque fois qu'on fait un gros non-dit, hélas, on ne fait pas ces signes-là. Donc il faut plutôt être attentif aux changements comportementaux. Et surtout, regardez la bouche. Parce qu'on dit les yeux, les yeux, les yeux. Et moi, je dis, ça suffit avec les yeux. D'abord, il faudrait regarder les sourcils, souvent, hein, les mouvements de sourcils. Mais souvent, la bouche est plus intéressante parce qu'il y a une dizaine de muscles qui ne sont pas contrôlables. Et vous allez voir que la langue, si vous me permettez, peut faire bien des choses. Elle peut aller à gauche, elle peut sortir à droite, elle peut sortir devant. On peut avoir les lèvres qui rentrent, par exemple. C'est un critère vraiment qu'on voit très, très souvent. Et là, ça veut dire pas qu'on est menteur, mais ça veut dire qu'on dissimule des choses très clairement.
Vous avez dit comment?
Les lèvres, vous savez, les lèvres qui rentrent à l'intérieur de la bouche. Quoi.
D'accord, hein, très bien.
Voilà. Ça, c'est typique.
C'était très enrichissant.
Bon,
merci Manu. Merci.
Merci à vous.
Et puis, très vite, on va conclure avec Alain. Bonjour Alain.
Bonjour Stéphane, bonjour Brigitte. J'aurais voulu savoir si, au-delà des micro-gestes, la démarche d'une personne traduite en synergologie, parce qu'il y a un constat qui dit toujours que, très souvent, moi j'ai toujours entendu dire qu'une femme, par exemple, qui a la démarche, marche les pieds à l'intérieur, est quelqu'un de beaucoup plus introverti que quelqu'un qui marcherait les pieds vers l'extérieur.
Oui, alors sur ce terrain-là, j'allais dire, il y a beaucoup de biais physiologiques qui peuvent complètement.
J'ai l'impression que vous êtes un peu agacé, Stéphane Binard, parce que finalement, il y a eu plein d'idées comme ça qui sont finalement très basiques et pas très sérieuses, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues et l'histoire des bras croisés en est une aussi. C'est-à-dire que souvent, c'est un retour sur soi. On est bien. Moi, parfois, il m'arrive d'être en conférence, de vouloir commencer les bras croisés. Il peut y avoir dans un échange des amoureux au restaurant qui soient les bras croisés. C'est pas tellement un problème. C'est à partir du moment où on va se croiser les bras que c'est un problème. Julie Gayet répondait récemment, elle était à New York, à une question sur sa vie privée, ça l'embêtait. Elle a répondu, il y avait des signes très visibles, elle levait les yeux au ciel, etc. Et elle a fini par vouloir clore en croisant les bras à ce moment-là. Là, c'était pertinent.
Genre, c'est fini.
C'est fini.
Voilà. Je me ferme.
Voilà.
Bien sûr. Et Bruno Martin est déjà en train de choisir trois cartes pour notre love test qui va arriver tout de suite.
RMC, c'est le Lae Night Show.